Bonjour chers amis auditeurs, pour l'émission Le temps d'une cathédrale, aujourd'hui nous retrouvons bien entendu Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors la semaine dernière nous étions dans la chapelle Saint-Gosbert et nous y restons quelques instants encore pour la tapisserie qui explique tout au moins l'adoration des bergers. Alors Marie-Madeleine, peut-être quelques détails supplémentaires par rapport à la semaine dernière.
Alors, c'est une représentation de l'adoration des bergers, tout à fait classique. On y voit plusieurs personnages, bien sûr. La Vierge Marie au centre, derrière un berceau de fortune, sur un chevalet. On voit de la paille qui sort sous un linge blanc et dans lequel on devine le petit Jésus. On voit ses yeux, on voit ses cheveux, mais c'est assez ténu, voilà. Alors, la Vierge est vêtue de rouge et de bleu, classiquement, avec un voile blanc. Et autour d'elle, donc, trois personnages. Derrière elle, à droite, Saint Joseph, tout de rouge vêtu, à côté du bœuf, qui lui est devant Joseph. Et de l'autre côté, deux bergers tenant leurs bâtons, eux aussi vêtus de rouge, avec des pantalons, si on peut dire, bleus. Et ils croisent les mains en signe de prière, bien sûr. Enfin, ils sont un peu ébahis devant ce bébé. Voilà.
Et ravis, je pense.
Et ravis également. Ils sont attentifs. Hein. L'un regarde la Vierge et l'autre regarde aussi certainement la Vierge. Voilà, oui, ils sont tout attendris devant cette scène. Et devant le berceau, un agneau avec les pattes liées. Un agneau sur le côté, hein, avec les pattes liées. Il est couché devant le berceau. Évidemment, c'est symbolique. C'est le futur sacrifice de Jésus qui sera immolé plus tard. Voilà. Alors dans le fond, eh bien, nous voyons une mangeoire, parce que je n'ai pas encore parlé de l'âne. Il y est,
oui,
et
oui.
il est un peu distrait par ce qui se trouve dans la mangeoire, c'est-à-dire du foin, et il essaie d'en attraper quelques brins. Voilà. Alors tout à fait au-dessus, eh bien, se trouve un nuage. Un nuage, c'était tout à fait classique au XVIe et XVIIe siècle, hein, où l'on voit des petites têtes d'anges ailées et un petit bandeau qui se déroule avec mentionné dessus « Gloria in excelsis Deo »,« Gloire à Dieu au plus haut des cieux », puisque les bergers ont été avertis par les anges et de la naissance du Sauveur. Voilà, par gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et cette tapisserie, finalement, est assez joyeuse, bien que les personnages soient assez statiques, mais on a une belle perspective sur la gauche, par une ouverture, si l'on peut dire, de la masure, de l'étable dans lequel se trouvent les personnages. Et on voit donc une petite perspective d'arbres et de ciel. Voilà.
Alors, ceci termine bien sûr notre visite de la chapelle Saint-Gosbert. Nous ressortons de cette chapelle et nous donnons directement dans le cloître, Marie-Madeleine. Alors, est-ce que vous pourriez en rappeler déjà l'historique de
Alors,
ce cloître...
Ce cloître a une histoire assez longue, puisque déjà dans la vie de Saint Didier, il est écrit qu'il y avait au 7e siècle, donc vers l'an 600-650, à côté de la cathédrale, un monastère et un cloître. Donc, le cloître n'existe plus, le cloître roman, même pré-roman, n'existe plus. Il a été donc reconstruit en même temps que la cathédrale, c'est-à-dire au XIIe, mais même XIIIe siècle, c'est au moment où on a, même peut-être un peu plus tard, à la fin du XIIIe, lorsque l'on a remanié la cathédrale, en surélevant le chœur, qui s'était effondré, hein, qu'on a relevé en gothique, et le massif ouest. il y a la construction du massif ouest. Donc le cloître date de cette époque-là, une première restauration. Mais ensuite, il a été entièrement remanié à la fin du XVe siècle et terminé au milieu du XVIe siècle. Donc les dates exactes, c'est 1493, le début, enfin le financement, et 1553, la fin du chantier, qui, faute de moyens, a dû se terminer, puisque, voilà, ce cloître n'a jamais été terminé.
D'accord.
Le premier étage n'a jamais été fait, et si on déambule dans les galeries de ce cloître, eh bien, en levant la tête, on voit qu'il manque ce que l'on appelle les pendentifs, les petites clés de voûte qui descendent vers la terre, hein, vers le sol. Voilà. Alors, ce cloître, quand on y rentre, on est quand même un peu stupéfait, parce que c'est le gothique flamboyant qui règne dans ce cloître. Bien que l'époque de sa construction soit déjà la Renaissance. Donc, il y a des alternances entre début Renaissance et ce qui précédait, c'est-à-dire le gothique flamboyant.
Mais ce que vous dites là est tout à fait juste, puisque quand le simple touriste va dans ce cloître, il est très surpris.
Oui, par l'ornement de ce cloître, par les ornements divers de ce cloître. Il y a des portes qui sont magnifiques. Vraiment celle par laquelle on arrive, par exemple celle par laquelle on arrive de derrière le cœur, enfin du côté du cœur, elle est vraiment c'est vraiment
très
le
fournie.
gothique plein flamboyant si j'ose dire, hein, voilà. Et donc les voûtes aussi sont très travaillées, à croisées d'ogives et à clés de voûte. Il y a des escaliers aussi, mais auxquels on n'a pas accès, hein, mais des escaliers qui montent à l'intérieur de la cathédrale. Voilà, ces portes très très travaillées. La porte de la chapelle Saint-Gosbert, par exemple, est très travaillée également. Alors, il y a un ornement particulier à ce cloître, c'est ce qu'on appelle le chou frisé. On le trouve un peu partout, au-dessus des portes, mais aussi dans le cloître, à l'intérieur du cloître, c'est-à-dire côté jardin du cloître.
Oui.
Il y a un foisonnement de choux frisés. Voilà, c'est un ornement tout à fait typique de ce cloître. Alors ensuite, pour les portes, il y a des pieds droits tout à fait gothiques, hein, tout à fait... Et ensuite, il y a les sculptures. Alors, les sculptures, surtout dans la galerie nord, dans la galerie qui côtoie directement la cathédrale, on a tout d'abord deux tours crénelées, dans lesquelles on voit des assiégeants grimper. Et à travers les créneaux, enfin, dans l'espace des créneaux, on voit des petites têtes, des assiégés. Voilà. Alors... Évidemment, trouver cela dans un cloître, c'est un peu surprenant. Mais il faut se dire que dans un cloître, les moines se promenaient et méditaient sur les réalités de la vie. Ils étaient protégés, certes, mais ils priaient pour le monde entier. Et ils priaient également, surtout, pour le mal qui se trouvait... sur la terre, hein, voilà, et la guerre en fait partie, les sièges en font partie, voilà. Alors ensuite, nous avons diverses sculptures, nous avons une sculpture curieuse qui fait partie de ce que l'on appelait l'amour courtois, et l'on voit une dame, voilà, une dame assise sur les genoux de laquelle se repose un damoiseau, disons. Voilà, c'est tout à fait charmant, mais évidemment un peu incongru dans un cloître. Mais cela fait partie de la vie des hommes. Et les moines priaient pour les hommes. Voilà. Ensuite, nous voyons N'oublions pas que nous sommes sur le chemin de Compostelle.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui ont très souvent les renseignements sur la cathédrale et sur le cloître, viennent chercher et voir quelque chose de particulier dans le cloître.
Alors c'est finalement une lutte entre un pèlerin de Compostelle, puisqu'il porte un chapeau avec la coquille dessus, mais il se bat avec un malotru, voilà, de rencontre, qui essaie de lui voler sa bourse, hein, certainement. Donc ça, c'est une scène qui est à peu près en bon état, sauf le visage de l'attaquant, de l'assaillant. Eh bien, tout le reste est à peu près en bon état, ce qui est rare dans ce cloître, puisque je vous parlerai ensuite des vicissitudes qu'a vécu ce cloître. Voilà, alors on voit un moine, par exemple, qui se cache derrière un pilier, mais on voit sa main qui passe de l'autre côté. On voit aussi la tentation d'un moine par le malin, qui est représenté sous forme d'un singe habillé. Mmh. Voilà, et oui, le malin, le singe, c'est malin. Mmh. Et malin, ça commence par mal. Voilà. Donc c'est la tentation du diable. Ça aussi, c'est assez lisible. Hein, voilà. Mais il y a d'autres sculptures qui sont moins lisibles. Toujours dans la galerie sud, côté jardin, nous voyons un cavalier qui chevauche un lion. La tête du lion a disparu. Et on voit l'énorme botte du cavalier et son corps et son visage au-dessus du lion. Ensuite, alors, le clou, évidemment, de ce cloître, c'est la Vierge de l'Annonciation, la très très belle Vierge de l'Annonciation, qui est donc, elle, Renaissance, et qui est représentée avec un voile, mais sous ce voile, les cheveux déployés. Cela veut dire qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est encore jeune fille, et elle est drapée d'une belle robe, au pli déjà très accentué, et nous voyons l'influence de la Renaissance ici. Alors, pourquoi Vierge de l'Annonciation? Eh bien, alors elle se trouve exactement à l'angle sud-ouest du cloître, face à une porte qui se trouve sous la chaire dans la cathédrale. Et au linteau de cette porte se trouve l'ange. L'ange Gabriel, qui est représenté au-dessus de cette porte avec une belle guirlande de fruits, de grenades, de feuilles d'acanthe. Voilà.
Mais l'ange est positionné assez spécifiquement.
Eh bien, il est face à la Vierge.
Oui, mais son bras, on a l'impression que son bras veut montrer quelque chose.
Alors, son bras gauche tient le fameux, ce qu'on appelle le phylactère, c'est-à-dire le bandeau sur lequel, normalement, devrait être inscrit « Je te salue, Vierge Marie », etc. Mm-hmm. Hein, je te salue, Marie pleine de grâce. Or, il n'y a pas d'inscription là sur ce bandeau. Hein. Voilà.
Mais c'est vrai qu'en même temps, il tient ce bandeau et en même temps, oui, c'est en direction.
Oui, c'est en direction de la Vierge. De la Vierge, absolument. Alors évidemment, c'est un petit jeu que l'on fait surtout avec les enfants, hein, de trouver l'ange par rapport à la Vierge, hein, de se retourner, de trouver l'ange, parce que l'histoire n'est pas terminée. Cette annonce que fait l'ange et qui annonce à Marie qu'elle va être porteuse du Sauveur, eh bien, tout cela est béni par Dieu le Père, qui se trouve entre les deux à la clé de voûte de l'angle du cloître. Et Dieu le Père est représenté comme un vieillard, entouré d'anges. Il en manque un, ange, parce qu'il a été abîmé. Et mais les trois autres sont visibles, ce sont des anges musiciens, porteurs de harpe et de viol, etc. Voilà, et c'est une très très belle sculpture. Et personne n'y fait attention, c'est dommage parce que cela conclut l'incarnation de Jésus.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc nous continuons notre tour
tout autour du cloître. Alors il y a d'autres portes, il y a d'autres sculptures bien sûr, et à l'intérieur du cloître, c'est-à-dire côté jardin, on voit sur les piliers une multitude d'animaux plus ou moins plus ou moins fabuleux, hein, plus ou moins voilà mythique, mais on voit un bœuf, on voit des oiseaux, on voit des lions, etc. Enfin, ce sont des animaux, et là aussi on n'y fait pas trop attention, on les voit pas au premier regard, mais ils y sont. Voilà. Alors, et également, alors avec cette ornementation de choux frisés qui est constant dans ce cloître.
Et il y a de très belles photos à faire d'ailleurs dans ce cloître où nous apercevons, enfin dans un coin du cloître où nous apercevons vraiment la cathédrale avec le clocher et avec les coupoles de la cathédrale, notamment oui, la coupole des prophètes.
Et il y a aussi une chose un peu curieuse qui se trouve dans le cloître, alors côté est, presque à l'angle sud-est, il y a une tête à trois visages. Mm-hmm. Une tête à trois visages qui symbolise la Trinité. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Mais ça aussi, il faut le voir. Il faut déambuler tranquillement dans ce cloître et s'imprégner de tout ce qui s'y trouve. Alors, pour ce cloître, donc la fin de l'histoire, je vous ai dit que le cloître a été terminé en 1553, faute de moyens. 30 ans après, moins de 30 ans après, arrivent pour assiéger Cahors les Huguenots, à la tête desquels se trouve Henri de Navarre, venant de sa Navarre natale, et guidant tous ces Huguenots qui ont amené évidemment, enfin qui ont été reçus surtout par les Huguenots lotois. Voilà. Et donc ils saccagent la ville de Cahors, saccagent le cloître, saccagent la cathédrale et repartent bien sûr. La ville est dévastée et 9 ans plus tard, Henri IV est roi. Henri de Navarre devient Henri IV de France après s'être converti. Et se souvenant des dégâts qu'il avait causés à Cahors, il envoie à la ville de Cahors un dédommagement de 6000 livres tournois, 6000, dont 3000, c'est-à-dire la moitié, uniquement pour la cathédrale. Donc il s'était vraiment rendu compte des dégâts qu'il avait faits et des énormités commises. Voilà, c'est pour ça que tous les dégâts qui se trouvent dans la cathédrale, on en a parlé précédemment. En particulier le couronnement de la Vierge, hein, ça c'est très visible, tout est martelé et saccagé, et dans le cloître aussi, hein, bien sûr. Voilà. Donc, voilà pour ce cloître. Alors, le cloître lui-même.
Oui.
Alors, il faut aussi signaler que dans ce cloître, on le remarque pas non plus trop, mais c'est une découverte relativement récente, puisque ça date des années 2000, du début des années 2000, une tour romane qui marque donc que ce cloître était bien roman au départ. À l'origine, il y en avait deux, mais celle-ci est donc au-dessus de la galerie sud, à droite de la porte du grenier du chapitre, dont nous allons parler. Mmh. Et cette tour, il y a de beaux restes, elle est un peu étêtée, je pense, il n'y a pas toute sa hauteur, mais on remarque une très belle fenêtre géminée qui est murée à l'heure actuelle, mais qui avait des contours en briques. Hein, voilà. Et c'est un beau reste du cloître roman. Alors le grenier du chapitre, eh bien, il s'ouvre sur la galerie sud. Il est composé de deux salles superposées. Celle du bas a des murs en briques et des voûtes en briques, et celle du haut est en pierre-brique mélangée, et sert à l'heure actuelle à des expositions, puisque c'est la mairie qui en est attributaire. Hein, voilà.
Oui, justement, c'est un petit peu ce que je disais quand j'ai commencé ma phrase. Le cloître a beaucoup de richesses que nous venons de voir, que nous venons d'entendre, mais également cette tour dont vous avez parlé, ainsi que ce grenier du chapitre, qui sont quand même assez spécifiques et qui, voilà,
Voilà.
précisent un certain nombre de
Alors,
choses.
grenier du chapitre, c'était les réserves des moines, hein, à l'origine. Mais après, ça a pu servir de salle capitulaire également, par la suite, et puis maintenant de salle d'exposition. Voilà.
Donc, au sortir de ce cloître,
Alors, à
Marie-Madeleine,
côté de ce
bien
cloître,
sûr,
hein,
nous pouvons, nous donnons dans la cour de l'archidiaconé.
voilà, la cour de l'archidiaconé.
Voilà.
Et de l'archidiaconé, hein, voilà. Alors, un archidiaconé était à l'origine propriété d'un archidiacre. L'archidiacre, c'était, si vous voulez, l'équivalent du vicaire général. Hein, voilà. Donc, il était délégué par l'évêque pour aller visiter toutes les paroisses de son diocèse et voir les prêtres, etc., et faire le lien avec l'évêque, parce que l'évêque se déplaçait rarement, évidemment, sauf certains, comme Alain de Solminiac, qui a parcouru à pied son diocèse, ou voilà, hein. Et donc, cet archidiaconé que nous avons à Cahors est assez bien conservé. C'est un ensemble donc assez monumental, Renaissance, tout à fait Renaissance, qui a été construit à la fin du 15e siècle et début 17, à la fin du 16e siècle, pardon. Donc nous voyons encore de très belles fenêtres à meneaux, une porte au-dessus de laquelle il y a une sorte de d'écu, hein, d'écu carré, si on peut dire, qui lui aussi est très martelé, une fenêtre à meneaux au-dessus magnifique, et encore une petite fenêtre à meneaux au-dessus, entouré de médaillons, de portraits d'un couple. Alors, y a des détails qui sont très beaux, bien qu'abîmés, bien sûr, hein, l'âge et les vicissitudes sont passées par là, mais sur cette fameuse porte, donc, il y a des pieds droits sculptés de vases et d'animaux et de feuillages. Et au-dessus de l'écu, on a sous la grande fenêtre des consoles et sur le linteau inférieur de cette fenêtre, nous avons une superbe guirlande de putti, c'est-à-dire des petits anges mais sans ailes, de putti qui déclinent donc des guirlandes, qui déroulent des guirlandes, qui se disputent peut-être un peu et qui jouent, voilà, tout le long de ce linteau avec ces deux consoles. Et sous la console gauche, on remarque, alors c'est très abîmé, on remarque un animal qui est une salamandre et qui rappelle la tribu de François Ier. Donc nous sommes en pleine Renaissance, hein, voilà, du XVIe siècle. Alors, bien sûr, d'autres éléments seraient à considérer. Mais nous avons, enfin, il suffit, il faut le voir avec des jumelles. Il faut le voir avec des jumelles,
Pour voir tous les
voilà, dans le
détails.
jardin. Alors, ce jardin est connu des Cadurciens, mais aussi des touristes, parce que c'est un jardin dit secret, qui est sur le modèle médiéval, et avec des plantes de toutes sortes, et médicinales, et aromatiques, ou ornementales. Voilà. Et il est très visité, ce jardin. Il est très très visité. Et c'est vrai qu'il est magnifique l'été, au printemps, l'été, il est vraiment magnifique. Parce qu'il est entretenu par la ville, donc. Voilà pour l'archidiaconé. On aurait pu dire beaucoup de choses, mais enfin, c'est surtout l'ensemble qu'il faut considérer. parce que c'est quand même architecturalement quelque chose de très intéressant.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marie-Made, ou tout au moins à l'instant, et c'est très prisé par les touristes, parce qu'ils sont toujours très surpris de découvrir cet archidiaconé à l'intérieur du vieux Cahors.
Voilà, d'avoir on ne soupçonne absolument
cette richesse.
Pas.
Oui. Voilà, absolument. Alors Marie-Madeleine, nous terminons par cette cour de l'archidiaconé, la visite architecturale et spirituelle de la cathédrale. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci Marie-Madeleine de nous avoir accompagnés durant toutes ces émissions.
Avec grand plaisir.
Et à très bientôt pour d'autres aventures à Cahors. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.